Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
12h30, 14h30, 2 heures d'infos, de débat, mais aussi d'opinion avec les auditeurs. L'info avec Amandine Bégaud tous les jours jusqu'à 13h. Bonjour Amandine.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une, un maire de la Drôme contraint de fermer ses deux écoles pour une semaine. Elle est prise de l'essence qui dépasse à nouveau des records. Et puis peut-être un rebondissement dans l'enquête sur la tuerie de Chevaline. Une personne est en garde à vue.
Deux sujets à partir de 12h40. Faut-il ou non légaliser le suicide assisté en France? Témoignage rare, celui d'un Français qui a choisi d'aller mourir en Suisse. Vous avez peut-être entendu ce témoignage déjà ce matin au micro de Nicolas Burnens. Et à 12h50, le coup d'envoi de l'opération Piège Jaune avec Didier Deschamps, parrain de l'opération. Il sera notre invité, ça va être formidable.
Notre question du jour sur RTL.fr, justement, faut-il légaliser le suicide assisté? Vous dites oui massivement à 75%. La météo du jour, c'est avec vous Peggy Broche. Bonjour Peggy.
Bonjour Amandine.
Un temps froid et sec.
Oui, de 2 à 9 degrés globalement dans le pays, 9 à 12 degrés sur les bords de Manche et jusqu'à 15 près de la Méditerranée. Le temps est sec mais reste couvert tout de même aujourd'hui entre la Bretagne et la Haute-France. Ailleurs, les grisailles se dissipent lentement, certaines sont plus tenaces. Et puis je rappelle qu'il y a toujours 5 départements du sud-ouest en vigilance orange cru.
Merci Peggy, à tout à l'heure.
RTL Midi.
Et pour commencer, direction donc Montoison, un petit village de 1900 habitants dans la Drôme. 1900 habitants et plus d'école pendant une semaine. Le maire a été obligé de fermer la maternelle et l'école primaire faute de personnel, Frédéric Perruche.
Oui, difficile voire impossible pour le maire de remplacer les ATSEM, les dames de cantine, sans compter les professeurs des écoles malades ou cas contact. Alors par sécurité, pour que tout le monde retrouve son souffle, les 8 classes seront fermées jusqu'à jeudi prochain. Ce que comprend Virginie, maman de la petite Lilou, élève de CM2.
Là, c'est vrai que la situation est un petit peu compliquée en ce moment, donc si ça peut permettre de stopper l'hémorragie qu'on a, j'ai envie de dire, pourquoi pas.
Même si ça dure une semaine?
Ben oui, pas le choix, hein, on va s'adapter. Hein. Si ça peut aller vers de meilleurs jours, pourquoi pas.
Qu'est-ce que t'en penses du coup? T'es contente ou pas ou...
Oui, mais j'aime bien quand même un peu aller à l'école, mais oui, ça va, je suis contente.
Tu préfères ça ou tu préfères l'école?
J'aime bien les deux.
Baptiste, lui, garde son fils, Paul, 4 ans depuis lundi déjà. La maîtresse est malade, alors il a déjà dû prendre des RTT.
On n'a pas le choix, c'est vrai que le patron, il est compréhensif. Mais ça l'embête quand même, hein, de devoir se séparer de moi.
Donc vous allez garder votre fils, vous, du coup?
Oui, je vais le garder toute la semaine avec moi, il va rester avec papa, il n'a pas le choix, et moi non plus, j'ai pas le choix. Je peux passer des moments avec lui, ça me permet de partager des moments.
Alors la décision du maire est plutôt bien comprise dans le village où le système D est désormais devenu une habitude pour les parents.
Frédéric Perruche à Montoison dans la Drôme pour RTL et vous évoquiez à l'instant cette grève dans les écoles prévue demain. Le mouvement s'annonce très suivi. Les syndicats annoncent 75% de grévistes et une école sur deux fermée. Ça ce sera donc pour demain, autre échéance. Samedi, fin du pass sanitaire pour tous ceux qui ont reçu leur deuxième dose avant le 15 juin. Ça concernerait à Gatlandais jusqu'à 800 000 personnes.
Exactement, 800 000 personnes vaccinées donc il y a plus de 7 mois. Pour récupérer leur pass sanitaire, elles devront recevoir une dose de rappel. Au ministère de la Santé, on souligne tout de même que sur ces 800 000 personnes, certaines ont été contaminées depuis. Surtout ces dernières semaines avec Omicron, 200 à 300 000 contaminations par jour. Parmi elles se trouvent forcément donc des Français vaccinés il y a 7 mois ou plus. Si c'est votre cas, vous n'êtes pas concerné par la suspension du pass sanitaire.
Mais alors, si c'est notre cas, il faut faire quelque chose ou c'est automatique ce rallongement du pass?
Alors, si on a été vacciné donc avant le 15 juin, dans ce cas-là, vous avez droit à un certificat de rétablissement après avoir été malade du Covid. Ce certificat est valable 6 mois maximum. Il commence à partir de la date de votre test positif. Il entre dans le pass sanitaire et vous permet de continuer d'aller au restaurant ou au cinéma par exemple. Pour l'obtenir, vous avez deux solutions. Soit lors du test positif, la pharmacie vous a donné un papier avec un QR code. Là, c'est ce papier qui vous sert de passe sanitaire. Si vous avez reçu le résultat de votre test par SMS ou par mail, là, vous devez cliquer sur un lien qui vous permet d'obtenir votre certificat de rétablissement.
Merci beaucoup à Gatlandais pour ces précisions.
Et dans le même temps, le pass vaccinal est lui débattu au Sénat.
Bonjour Alentin Boisset.
Bonjour.
Et les discussions ont débuté hier et le projet projet de loi voté la semaine dernière à l'Assemblée a déjà pas mal été détricoté.
Et oui, la République En Marche n'est pas majoritaire chez les sénateurs. Ils ont donc réussi à modifier en une seule nuit de nombreux points du texte. D'abord, la suppression des contrôles d'identité par les patrons de bars, cafés et restaurants. Cela devait servir pour éviter l'utilisation de faux passes. Puis, un peu plus tard dans la nuit, les sénateurs ont considéré que le pass vaccinal ne devait s'appliquer que pour les plus de 18 ans majeurs et vaccinés, donc là où l'Assemblée prévoyait de l'appliquer dès 12 ans pour les loisirs. Enfin, le Sénat a voté le principe d'une jauge proportionnelle dans les stades et salles de spectacle qui remplacerait donc de fait la jauge unique de 5000 personnes votée à l'Assemblée. Certains députés de La République En Marche l'avaient souhaité publiquement contre l'avis du gouvernement. Les travaux vont se poursuivre aujourd'hui. Le texte arrivera ensuite en commission mixte paritaire. Autrement dit, les députés et les sénateurs vont se retrouver autour d'une même table pour tenter de trouver un compromis.
Et il peut y avoir effectivement, notamment pour les stades et les théâtres, une modification du premier texte. Peut-être que les députés vont accepter ces modifications. Je sais qu'il y a beaucoup de sportifs qui nous écoutent et c'est très intéressant.
Merci beaucoup Valentin Boissé du service politique de RTL. Au milieu de tout ça, une bonne nouvelle, le nombre de greffes qui avait fortement baissé en 2020 repart. 5273 greffes en 2021, c'est 20% de plus que l'année précédente, mais encore 10% de moins qu'en 2019. Emmanuelle Cordeau-Boucher est la directrice générale de l'Agence de biomédecine.
Oui, ce sont des bonnes nouvelles. Dans certains domaines, nous revenons même au niveau d'avant-crise, notamment en matière de greffe à partir de donneurs vivants. La greffe qui a le plus augmenté, c'est la greffe de rein, avec une augmentation de 25%. Pour les autres organes, le cœur, le foie et le poumon, les hausses sont respectivement de 10, 8,5 et 12%. Ce résultat, il n'était absolument pas acquis. Les équipes hospitalières ont ressenti les effets de la crise au long cours. Et donc elles ont vraiment mobilisé leur capacité d'adaptation en dépit des difficultés causées par l'épidémie, notamment au printemps, puisque vous vous souvenez que le mois d'avril 2021 a été extrêmement tendu à l'hôpital, avec en particulier des taux d'occupation des lits de réanimation qui étaient très élevés.
La patronne de l'agence de biomédecine au micro RTL, Odile Pouget.
Tout à fait autre chose dans l'actualité également, les tarifs de l'essence qui repartent à la hausse.
Encore, on a envie de dire, on avait eu droit à une petite accalmie pendant un mois, mais là, on retrouve des records. Christophe Bourou, bonjour.
Bonjour.
Et on est nombreux à avoir découvert ça, cette mauvaise surprise à la pompe.
Eh oui, et c'est le gazole qui grimpe le plus, 1,62€ le litre ce matin en moyenne. C'est une augmentation de 7 centimes tout de même en un mois. Le précédent record datait de novembre dernier à 1,57€. Alors côté samplon, là aussi ça grimpe puisque le samplon 95-10 est désormais facturé en moyenne 1,68€. Autrement dit, les prix de l'essence dépassent les niveaux de l'automne dernier et même parfois ceux qui avaient déclenché la fameuse crise des gilets jaunes. Alors pourquoi cette hausse? Elle est due essentiellement à la reprise de l'activité économique qui ne se dément pas malgré le contexte Covid. Et dans le même temps, eh bien, vous avez l'OPEP, l'Organisation mondiale des pays producteurs de pétrole, qui a décidé de réduire sa production, moins de pétrole et une demande plus forte. Résultat, les prix augmentent, c'est mécanique. Et face à cette situation, beaucoup réclament de nouveau une baisse des taxes, comme 40 millions d'automobilistes, même si le gouvernement s'est engagé, vous en souvenez, à alléger les dépenses en versant une prime de 100€ pour les Français gagnant moins de 2000€ par mois.
Explication signée Christophe Bourou. Toujours à propos d'énergie, ce nouveau report pour l'EPR de Flamanville, encore un, la mise en route du réacteur nucléaire nouvelle génération est décalée, cette fois au second trimestre 2023, contre fin 2022 jusqu'ici. C'est l'une des affaires les plus mystérieuses de ces dernières années, la tuerie de Chevaline. Et on a donc appris ce matin qu'une personne avait été placée en garde à vue, Serge Pillot.
Oui, un homme a été interpellé dans le cadre de cette affaire vers 8h ce matin dans la banlieue lyonnaise. Son domicile a été perquisitionné. L'individu a été placé en garde à vue par les gendarmes de la section de recherche de Chambéry en charge de l'enquête. La procureure d'Annecy a seulement précisé que cette garde à vue avait été décidée pour une vérification d'emploi du temps, sans plus de détails. On ne sait donc pas qui est cet homme. En 2015, un suspect, un motard, qui se trouvait à proximité du lieu du drame, avait été entendu par les enquêteurs, puis relâché. Il s'agissait d'un chef d'entreprise de la région lyonnaise. Est-ce le même homme qui a été arrêté ce matin près de Lyon ? Impossible de le dire pour l'instant. En septembre dernier, une remise en situation avec tous les témoins du drame avait été organisée à Chevaline par le juge et les gendarmes en charge de l'affaire.
Serge Puyot, merci à vous pour ce point et on suivra bien sûr l'évolution de cette garde à vue au fur et à mesure de la journée. La suite à présent du feuilleton Djokovic, 4 jours maintenant du coup d'envoi de l'Open d'Australie, ce nouveau coup dur pour le numéro 1 mondial. Bonjour Jean-Michel Rascol.
Bonjour.
La presse allemande fait des révélations pour le moins gênantes.
Oui, deux confrères allemands de l'hebdomadaire Der Spiegel ont fait parler les QR codes des tests de Novak Djokovic. Ils en ont décrypté le langage numérique et il apparaît que le Serbe était toujours positif le 26 décembre. La date des tests ont été intervertis. Une falsification qui, si elle est avérée, pourrait valoir au numéro 1 mondial 3 ans de suspension. Dans un long communiqué sur son compte Instagram, Djokovic ne fait pas allusion à ces révélations. En revanche, il admet deux erreurs, avoir reçu des journalistes français le 18 décembre alors qu'il se savait positif, bien qu'asymptomatique. Et puis il reconnaît que le document présenté à la douane australienne comportait une exactitude. Il a bien voyagé en Espagne avant de s'envoler pour Melbourne. S'il profite encore de la belle lumière australe, s'il s'entraîne à huis clos, le numéro 1 mondial voit grandir la suspicion. Pas sûr qu'il puisse la contenir alors que le ministre de l'immigration n'a pas de son côté renoncé à l'expulser.
Et ce qui est terrible, Jean-Michel, c'est que 3 ans de suspension possible à l'âge de Djokovic, c'est la fin de sa carrière.
34 et 3, ça fait 37 ans. Si c'était avéré et si effectivement il était soumis à cette
décision,
au fait de
c'est
pas
ça
pouvoir
le plus
jouer,
terrible
à cette décision,
lui.
Ça serait très grave pour
c'est,
lui. Ouais,
c'est
très
ça
grave
ça
pour lui. Mais à côté de ça, s'il a fauté, il y a des règles. Et d'ailleurs, ce sont des règles, les règles non pas du gouvernement australien, mais de l'ATP, hein,
bien
l'association.
Sûr, c'est
du
l'ATP
tennis
qui déciderait. Mais vous rendez compte, une fin de carrière pour peut-être un des plus grands joueurs de l'histoire du tennis, sortir du tennis comme ça, je trouve que c'est terrible pour lui.
C'est effectivement terrible, si c'est avéré encore une fois.
Merci beaucoup.
Bien sûr, bien sûr.
Jean-Michel Rascol du service des sports de RTL.
Quel monde dans lequel nous sommes. Sujet grave, vous avez peut-être écouté le témoignage ce matin au micro de Nicolas Burnance qui est avec nous. Faut-il ou non légaliser le suicide assisté en France? Il est allé en Suisse. Nous en parlons dans une seconde.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
C'est une souffrance permanente. Je vieillis et que des problèmes physiques. Je n'ai plus aucune joie de poursuivre cette vie. De savoir que je ne vais plus être un poids, ça me soulage énormément.
Ne plus être un poids, voilà pourquoi Paul, un Français de 84 ans, a décidé de recourir au suicide assisté en Suisse. C'est un témoignage rare et qui forcément interpelle, nous interpelle tous hein, sur un sujet qui nous concerne tous, celui de la fin de vie.
Là, je m'en vais, je vais leur faire beaucoup de peine, mais c'est ça. Une fois et définitivement, parce que je les aime. J'aime ma fille, j'aime ma petite-fille. Triste, non. C'est un acte d'amour. J'espère que ça pourrait changer, peut-être par mon témoignage, pour que les personnes aient le choix du reste de leur vie soient reconnues.
Alors Paul n'était pas atteint d'une maladie mortelle, hein, il souffrait de comptocormie, un handicap qui l'obligeait à marcher plié en deux, sans compter bien sûr les pathologies liées à son âge. Bonjour Nicolas Burnan.
Bonjour.
C'est vous qui avez rencontré Paul, vous l'avez suivi jusqu'au bout, jusqu'aux toutes dernières heures de sa vie.
Oui, c'est un petit appartement situé dans une zone industrielle en périphérie de Bâle, à quelques kilomètres de la frontière française. Une chambre colorée, des fleurs, un canapé, une bibliothèque. Pour sa mort, Paul est soigneusement rasé. Porte sa chemise préférée, bleue, à rayures. Le vieil homme s'allonge sur le lit, entouré de sa petite fille et de sa fille Marilyn. Barbara, l'infirmière de l'association qui l'accompagne, prépare la perfusion. La dose létale est mélangée dans une poche de sérum physiologique.
Je l'ai mis la perfusion. Quand il était prêt, nous avons mis le protouille, nous avons posé les 4 questions pour le film, pour la police. C'est le nom, c'est la date de naissance, c'est pourquoi quelqu'un est venu ici, qu'est-ce qui se passe quand il ouvre la perfusion. Je lui ai dit, je vous souhaite un très bon voyage. Très content, très heureux de pouvoir aller.
Avec sa main, Paul ouvre la perfusion, s'endort au bout d'une minute. Marilyn lui caresse tendrement le visage. À 11h50, son cœur s'est arrêté.
On a dit plein de choses à papa, mais rapidement, parce que papa était fatigué, il avait hâte de partir. Très, très ému, mais papa, il n'aime pas montrer ses émotions. On sait même qu'il va retrouver maman, voilà. Je suis contente pour lui. Et c'est pour ça qu'on l'a fait. C'est ça que je garde comme image. Papa, c'était préparé. Je ne me plains pas, hein. Ça n'empêche pas que
d'être malheureux.
Sa fille et sa petite-fille sont restées à son chevet jusqu'au bout. Elles ont attendu l'arrivée du médecin légiste, de la police et des pompes funèbres. Le cercueil quitte l'appartement. Les cendres de Paul rejoindront d'ici quelques jours l'île de la Réunion pour reposer auprès de sa famille.
Cette procédure est ce qu'on appelle en Suisse le suicide assisté. Qui y a droit ?
Alors cette pratique est très encadrée, le patient doit avoir une maladie incurable et mortelle, ou avoir, c'était le cas de Paul, des polypathologies invalidantes, c'est-à-dire de multiples handicaps liés à l'âge et des souffrances insupportables. La personne doit également être capable de discernement. Le médecin suisse Beat Hilbrunner évalue régulièrement des malades qui ont recours au suicide assisté.
Pour pouvoir prendre une décision aussi importante, il faut avoir une machinerie de réflexion, être dans un état psychologique qui est suffisamment équilibré, ne soit pas une fuite d'une situation qui peut être remédiée par des médicaments, par des traitements, des trucs comme ça. Sinon, ce n'est pas légal, c'est la loi qui prévoit ça.
Alors en France, c'est interdit, hein, ce suicide assisté. Qu'est-ce qui est possible chez nous aujourd'hui ?
Eh bien, un patient atteint d'une maladie incurable dont le pronostic vital est engagé à court terme peut bénéficier d'une sédation profonde et continue dans le cadre de soins palliatifs s'il considère qu'un traitement constitue pour lui une obstination déraisonnable. Cette pratique consiste à l'endormir jusqu'à ce que la mort survienne sans souffrance. Le malade a la possibilité de rédiger des directives anticipées de son vivant afin de refuser, par exemple, d'être réanimé par tous les moyens s'il venait, par exemple, à ne plus pouvoir s'exprimer. Enfin, chaque fin de vie est soumise à une procédure collégiale du corps médical pour vérifier que la situation du patient rentre bien dans le cadre des conditions prévues par la loi.
Merci Nicolas, le sujet j'en suis sûr fera réagir nos auditeurs. Comme chaque jour, évidemment, vous aurez la parole dès 13h au 32-10. Et d'ici là, le coup d'envoi de l'opération Pièce Jaune avec son parrain, un des dieux français, disons-le, Didier Deschamps, l'invité de RTL Midi.
RTL Midi avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Je suis de retour pour l'opération Pièce Jaune. On m'a dit que les tirelires revenaient en 2022. Bah, je trouve que c'est une super nouvelle, me voilà.
Vous avez raison Camille, les tirelires reviennent. Mais cette année, il y a une petite différence. C'est que chacun fabrique sa propre tirelire.
Et boum ! Tirelire cochon. Entièrement en papier mâché. Touchez-moi cette folie. Je l'ai mâché moi-même.
Non. Vraiment pas, Camille.
Vous pouvez faire beaucoup plus simple. Tout peut être matière à tirelire. Vous pouvez prendre une boîte à gâteau, un pot de confiture.
Le but, c'est pas de la garder chez soi. C'est de le ramener au bureau de poste avant la fin de l'opération Pièce Jaune.
Opération Pièce Jaune qui débute donc aujourd'hui et dont RTL est partenaire. Vous avez jusqu'au 5 février pour collecter vos pièces pour les enfants hospitalisés. Bonjour Didier Deschamps.
Bonjour.
Vous êtes à nouveau le parrain de cette édition 2022. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur RTL depuis la Poste du Louvre à Paris où sera donné tout à l'heure le coup d'envoi officiel de l'opération. Alors la nouveauté, on vient de l'entendre dans ce clip où on vous voit d'ailleurs aux côtés de Brigitte Macron et de Camille Combal, c'est le retour des tirelires. Elles avaient disparu avec le Covid. On doit faire chacun la sienne, c'est ça Didier ?
Oui, c'est une bonne idée. Comme ça, ça permet d'avoir un peu de créativité et ça permet de se divertir aussi avec, évidemment, le but, c'est de les remplir le plus possible. Et plus il y en aura, mieux ça sera pour tous ces enfants qui en ont besoin.
Alors Didier, chacun sait que vous avez quasiment tous les talents. Vous avez ajouté le talent de comédien, puisque dans ce clip, on a entendu la façon dont vous jouez, dont vous interprétez. Comment ça s'est passé, le tournage de ce clip ?
Ah, c'est plutôt marrant. Après, il faut rendre hommage à celui qui a monté toutes ces scènes parce que tout était découpé pour arriver à quelque chose qui est plutôt agréable, sympathique. Bon, avec Camille qui a cette capacité, avait beaucoup d'humour aussi, voilà, de faire passer un beau message.
Bon, vous êtes le parrain de cette opération Pièce Jaune depuis 2019. Pourquoi avoir choisi cette cause plutôt qu'une autre pour vous engager ?
C'est une bonne question. Toutes les causes méritent d'être défendues, bien évidemment. Moi, je suis extrêmement sensible à la cause des enfants, comme je suis papa, même si mon garçon a bien grandi. Mais voilà, je suis très sensible à cette cause. Donc, j'ai été sollicité la première fois par Bernadette Chirac. Et c'est avec grand plaisir que j'ai continué l'aventure avec Brigitte Macron et toujours avec beaucoup de fierté. Et c'est toujours de grands moments pour moi d'être au contact de ces enfants, d'aller les voir dans les hôpitaux, parce qu'on a toujours les uns et les autres tendance à se plaindre pour un oui et pour un non, alors que malgré grande difficulté, ils ont toujours le sourire, donc c'est une formidable leçon de vie et ça permet de relativiser pas mal de choses.
Cette opération, on le rappelle, hein, pour nos auditeurs, bien sûr, elle sert, et on le sait tous maintenant depuis qu'elle existe, à aider à améliorer le quotidien des enfants qui sont hospitalisés. Est-ce que très concrètement, vous pouvez nous donner 2-3 exemples de ce qui a pu être fait grâce à ces pièces jaunes ?
Oh, il y en a eu énormément. C'est surtout, évidemment, des bâtiments près des hôpitaux, ce qu'on appelle pour accueillir
les familles,
parce que les enfants qui sont hospitalisés au-delà de leurs difficultés et de la maladie, de faire en sorte de créer un quotidien qui soit proche de celui qu'ils auraient chez eux. Et pour ça, ils ont besoin de la présence de la famille. Mais évidemment aussi, après, il y a beaucoup de choses qui ont été créées pour des salles de classe, qu'il y ait des salles où ils peuvent s'amuser aussi, se divertir. Donc cet accompagnement-là est très important, parce qu'au-delà de l'aspect de la maladie elle-même, le mental, quand on est atteint par une maladie, est quelque chose de très, très important. Et forcément, d'avoir le moral, d'être dans un environnement plus favorable ou plus familier avec ceux qu'ils ont l'habitude d'avoir quand ils sont chez eux, ben ça permet à ces enfants de lutter contre la maladie et d'en guérir plus vite.
Vous parliez à l'instant de mental, c'est le coach là qui parle ?
Non, c'est la réalité.
C'est important aussi.
Oui, mais le mental.
Est-ce que c'est l'homme qui fait une heure de planche chaque matin ? C'était ça la question d'Amandine. Parce que vous faites toujours d'ailleurs une heure de planche chaque matin ?
Oui.
Une heure vraiment ?
Oui, pourquoi ? Parce que si tu veux, on s'y met.
Vous savez ce que c'est que
non, rester... je ne sais pas ce que c'est qu'une heure de planche.
C'est-à-dire que de faire la planche.
C'est pas de planche à voile, c'est du gainage.
C'est un renforcement musculaire, c'est ça le.
Voilà. De gainage. Donc Didier peut rester sur les avant-bras et sur la pointe des pieds durant une heure.
Une heure.
Donc ce qui demande
après,
un mental.
Après, j'arrête
important.
Parce que je m'ennuie. C'est parce que je suis fatigué, c'est bien.
Alors, vous pouvez le faire en écoutant le 12h30, 14h30. Ça fera 12 heures comme ça et vous verrez, ça passera très vite. Didier, évidemment, les pièces jaunes, c'est une actualité forte. Il y a aussi cette actualité de la pandémie et du sport qui est touché de plein fouet par cette pandémie et notamment le football. Est-ce que vous êtes consulté par l'exécutif parfois sur les jauges, sur la place des supporters dans les stades, et est-ce que vous avez un avis notamment sur cette nouvelle disposition de mettre 5000 supporters simplement dans les stades depuis quelques jours ?
Écoutez, chacun a sa place. Que j'ai un avis, je peux en avoir un et à la limite le donner, mais c'est pas de mon ressort de rentrer
dans
ces
discussions-là.
Non. C'est pas de mon ressort. Je suis sélectionneur, j'ai un président, il y a une responsabilité, c'est la fédération, donc c'est à mon président, avec évidemment le gouvernement, s'il a été sollicité, d'avoir des discussions, et les décisions sont prises par les décideurs. Moi, je décide, Pascal, tu me connais, à mon niveau, c'est sur le plan sportif, après, je m'adapte. C'est le maître mot.
C'est quelque chose qui pèse, pardon Didier, sur le quotidien de vos joueurs, malgré tout.
Ça a pesé beaucoup, je vous avoue sincèrement, pendant de jouer dans des stades à huis clos. On ne va pas se plaindre non plus, parce qu'il y a pire. Il y a certaines activités qui étaient arrêtées. Nous, on a pu continuer à jouer, mais le sport et le football sans spectateurs, c'est pas la même chose. Donc, il y avait un seul avantage, c'est que de mon banc de touche, je pouvais diriger mes joueurs, ils pouvaient m'entendre, alors que quand le stade est plein, ceux qui sont à côté, tout au plus, entendent quelques mots, mais sincèrement, je préfère qu'ils ne m'entendent pas, et voilà, parce que c'est le sport, et être dans un stade, c'est aussi le partage d'émotions, et au niveau de l'adrénaline, c'est quelque chose qui est très important d'avoir cette ambiance avec les supporters.
Didier, le sportif professionnel a un rapport particulier avec son corps, parfois même un rapport irrationnel, on le sait, on le voit même avec Djokovic, qui refuse de se faire vacciner, qui a peur en fait. Est-ce que vous-même, vous avez senti cela dans votre groupe des joueurs qui peuvent être réticents pour des raisons, une nouvelle fois, qu'on peut comprendre? Le sportif professionnel, faut bien comprendre comment il considère son corps,
c'est son outil de travail.
Donc voilà. je peux entendre ça, et c'est particulier, je disais, parfois c'est irrationnel, on le sait bien, ce rapport-là, Didier.
Oui, après, chaque individu est libre d'avoir ses propres convictions, sa propre position. Moi, je ne suis pas là pour leur dire « il faut faire ci, il ne faut pas faire ça ». Sur ce plan-là, si on me demande mon avis, j'ai pu avoir des discussions avec certains d'entre eux, bien évidemment, mais comme c'est à l'image de la société, dans le sport, ben, y a des gens qui se font vacciner, d'autres qui sont plus réticents pour différentes raisons. La liberté est encore là, même si, en étant factuel, aujourd'hui, la seule solution pour lutter contre la pandémie, c'est la vaccination. En disant ça, j'incite pas ou je vais pas brandir l'étendard en disant il faut tous se vacciner. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution pour éviter d'être hospitalisé, voire dans une situation compliquée, en réanimation. Donc, voilà. Après, libre à chacun d'avoir sa propre position par rapport à la vaccination.
Et Didier Deschamps, on est encore en pleine période de vœux. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2022? Plein de pièces jaunes, ça bien sûr, on l'a compris. Remporter aussi, j'imagine, la Coupe du Monde au Qatar?
Oui, ça fait partie de l'ambition que nous devons avoir en allant au Qatar défendre notre titre de champion du monde obtenu en 2018 en Russie. Ça sera en fin d'année. C'est une échéance qui est différente puisque d'habitude c'était au mois de juin. Mais avant toute autre chose, voilà, pour aller là-bas, il faudra y aller en pleine santé. Donc, bien évidemment, et après la période que nous sommes en train de vivre et qui est loin d'être terminée encore, malheureusement, voilà, la santé est primordiale. Évidemment, après, il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte, mais pour pouvoir vivre et bien vivre, il faut avoir la santé.
Ben merci beaucoup Didier Deschamps, c'est toujours un plaisir que de vous avoir en ligne. Amandine.
On rappelle bien sûr qu'on a jusqu'au 5 février donc hein, pour déposer les tirelires dans les bureaux de poste. Mmh. Et vous pouvez aussi donner par SMS en envoyant don au 92-111 ou sur piècesjaunes.fr.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Didier et belle et heureuse année à vous avec effectivement, on le souhaite, cette fin d'année. Ce sera la première fois qu'une Coupe du Monde aura lieu au mois de décembre. Il est 13h, vous allez pouvoir réagir évidemment aux propos de Didier Deschamps, mais également à tous les sujets du jour. A tout de suite.
RTL Midi.